RMC entre les poteaux. Wilfried Templier.
Salut à toutes et à tous. On s'attendait à un choc des Titans. On a eu une finale à sens unique. Le Stade Toulousain s'est offert un doublé quasi historique et un 21e bouclier de Brennus à l'issue d'un match cadenassé mais extrêmement maîtrisé. Et c'est aussi une performance. Sous la pluie de Saint-Denis, cette génération rouge et noir a encore marqué l'histoire. Et c'est peut-être pas fini. Comment Toulouse a mis son plan en action? On tentera d'expliquer, de décortiquer l'idée du staff pour permettre à son équipe de mettre sa grosse paluche sur cette finale et de plus relâcher l'étreinte. Jeu de main, jeu de Toulousain, vraiment? Ou plutôt revival des titres de 96 ou encore 2012 avec un on vient, on défonce tout, on met des points au pied et on s'en va. Et oui, c'est aussi ça, l'intelligence situationnelle. Et dans cette perfection stratégique, le Stade Toulousain a eu un homme de main pour parachever l'œuvre de son pack. Thomas Ramos, 15 des 18 points de son équipe, sera l'invité des poteaux. Il nous expliquera, entre deux bières peut-être, d'une fête qui ne s'arrête plus, le plan Toulousain. Et de l'autre côté, qu'est-il arrivé au Rochelet? Ont-ils été pris par l'enjeu ou par l'adversaire? On tentera de répondre à cette problématique qui ne quitte pas joueurs et supporters jaunes et noirs depuis vendredi soir, tant on n'a pas reconnu cette équipe d'ordinaire dominante. Et là, pour le coup, complètement à côté de ses pompes. Et enfin, après un bilan de la saison, on vous donnera des nouvelles des Bleus et une grosse semaine de leur premier match en Australie. Ils étaient 42, ils sont plus 41, une histoire de passeport, là, on verra ça. Mais dans cette liste, qui peut bousculer la hiérarchie? On le verra. Il y a quand même des visages bien connus. Des visages connus, on en a chez les poteaux. On l'a vu à la télé vendredi soir lors d'une archive, lorsqu'il se permettait de mettre un vent à Jean-Louis Calmejean au Parc des Princes pour aller soulever le bouclier malpoli de Denis Charvet. Bonjour.
Salut.
Et allez,
le pauvre Jean-Louis.
Ouais, c'était déjà le Stade Toulousain champion. Ouais. Jamais il n'aurait fait ça, Jean-Louis Calmejean, lui. Trop bien éduqué. Jeff Paturo est avec nous. Salut, Jeff.
Bonjour, bonjour à tous.
Il est sympa, Jean-Louis Calmejean, Jeff?
Très sympa. Ah. En soirée, il est très sympa.
Pierre Amiche, t'as peut-être pas connu Jean-Luc Calmejean, ou alors sur le jeu de l'Omou sur la console là, Mertens, ça te dit quelque chose, Pierre?
J'ai passé des heures à creuser comme une taupe en colère, c'était incroyable. Et puis il y avait un autre gars aussi dans le jeu, c'était Denis Charvet, avec des commentaires brillantissimes, c'était super.
Il arrivait à dire les bons noms?
Ce n'était pas nos commentaires, je vous signale.
Il donnait pas les noms.
On lisait un texte.
Il a dû palper pour ça, il a dû palper.
Et quelqu'un qui ne creuse plus comme une taupe en colère, c'est Manu Messécard, rédacteur en chef du Midi Olympique. Bonjour, monsieur Messécard.
Appelez-moi Thomas Ramos, je passerai tous les drops que vous voulez.
Allez, on verra ça. C'est parti. Retour au Stade de France vendredi soir, et comme disait le visionnaire Richard Dourde sur l'antenne d'RMC avant le match, le rugby c'est un jeu et à la fin c'est Toulouse qui gagne. Les Toulousains avancent mais sont toujours à l'entrée des 22 mètres avec maintenant Elstat. Au milieu du terrain avec Elstat le Sud-Africain. On va renverser dans l'axe, peut-être le drop à venir de Thomas Ramos, le drop,
il y
ça
est.
Passe, ça passe pour le drop de Thomas Ramos, ça a été très très bien amené stratégiquement, le renversement dans l'axe pour Colby, le drop de Colby, il passe 50 mètres face au poteau, il passe.
Incroyable.
Le drop de Colby pour relancer La Rochelle d'entrée dès le début, 42e, dès le début de cette deuxième mi-temps. Yaya West qui va s'élancer et le ballon qui va passer
entre les
perches. 12 pour le Stade Toulousain, 3 pour le Stade Rochelais, pénalité d'Yaya West. Que les Rochelais désaxent vers l'intérieur du terrain là maintenant et qu'ils essayent de faire avancer. Ils avancent, ils vont y aller. Essai pour La Rochelle. Alexis Balès, le ballon maintenant pour les Toulousains à 1 mètre de la ligne.
C'est fini.
Et c'est fini. Toulouse est champion. 21e bouclier de Brennus est doublé pour le Stade Toulousain. Les insatiables ont encore frappé. Toulouse, à nouveau champion de France. Toulouse gagne un 21e bouclier de Brennus qui prend la route du Capitole. Voilà, 18 à 8, le 21e, on l'a dit, le deuxième doublé, même si celui de 96 a été fait sans les clubs anglais en Coupe d'Europe, avec une finale en janvier. Et donc celui de 2021 est plus à mettre en perspective avec celui de Toulon en 2014. Le Stade Toulousain continue d'écrire l'histoire. 21 titres en 29 finales, ça fait 72% de victoire à ce stade de la compétition. Alors avant de parler du match et de son contenu, Denis, qu'est-ce que ça t'inspire, cette hégémonie toulousaine?
Ça m'inspire beaucoup d'admiration parce que moi j'ai grandi dans le culte de la gagne, c'est-à-dire de la compétition, donc on joue pour gagner, c'est évident. Parfois je l'oublie et c'est vrai que les Toulousains nous le rappellent, c'est-à-dire qu'avec intelligence ils ont construit cette victoire, même s'il n'a pas été brillant, même s'il n'y a pas eu des envolées. La stratégie, elle est formidable, quoi. C'est-à-dire que tu peux être qu'admiratif du travail effectué. Et quand tu lis Thomas Ramos dans ses déclarations, voilà, tu comprends mieux que tout est étudié à la lettre.
C'est rien. C'est un club qui ne laisse rien au hasard, absolument rien. Du fait de floquer le bus pour la parade après le match et pas avant, ça c'est une image aussi, ou d'aller chercher les maillots des clubs formateurs de ses joueurs pour qu'ils les enfilent le jour de la finale. Ils pensent à tout, tous les détails. Écoutez le manager Hugo Mola interrogé sur un certain savoir-faire.
Je pense que le savoir-faire, il est pas forcément totalement lié à ce groupe et à ce staff. Je pense que le club a une habitude à la gagne, qui transpire dans notre quotidien, qui transpire dans notre organisation. Rien ne permet peut-être à nos adversaires de se motiver. Et je pense qu'on a fait preuve aujourd'hui de beaucoup d'humilité. Et malgré le fait d'avoir jamais perdu contre l'équipe finaliste, malgré le fait d'être champion d'Europe, eh bien, on était encore remis en question par les pronostiqueurs, par les observateurs, par beaucoup de personnes. Donc on s'est un peu nourri de ça et vous nous avez bien rendu service.
Vous nous avez bien rendu service. C'est très mauvaisien, ça, Jeff, non?
Oui, mais c'est pas nouveau qu'on voit ce qui s'est passé cette saison, parce que je vous rappelle, à notre micro, après la finale du Champions Cup, remportée contre La Rochelle à Twickenham, il avait dit « Certains pensaient que le soldat Toulouse était mort ». Je sais pas qui pensait ça, en fait, que le Toulouse était mort. C'est vrai qu'il se sert de tout. Il faut se nourrir des critiques, il faut se nourrir des déclarations adverses. Sauf qu'il n'y a pas eu franchement de déclarations adverses. Et des critiques, c'est juste des compliments à l'égard du PAC Rochelet depuis la semaine dernière. Et je vous rappelle que pour Hugo Mola, avant la rencontre, il disait, c'est pas du 50-50, on est derrière La Rochelle. Ouais. Et c'est vrai que c'est très mauvaisien, ça.
Oui, c'est même les bookmakers aussi, hein. Alors, c'est les paris des gens, en fait, hein. Manu, faut laisser aucune miette aux Toulousains pour la motivation. Enfin, ils vont les chercher tout seuls et quitte à un en inventer des fois.
Ouais, ils ont tout inventé là, on l'a bien vu. Il suffit d'un titre. Je vais vous raconter une petite anecdote. À un moment donné de la saison, en fin de saison, Didier Lacroix nous a accordé une interview où il dit je rêve du doublé. Oui, il le dit, mais il le pense. Enfin, après coup, il a regretté ces mots-là parce qu'il pensait que ça allait nourrir les
surtout
adversaires
pas,
et avoir une cible. Ma réponse elle a été de lui dire Didier, t'as pas besoin de dire ça dans middle, et si toi troisième ligne du Stade Toulousain champion de France de multiples reprises, tu n'es pas capable, enfin tu ne peux pas, tu n'as pas le droit d'avoir un tel rêve de transmettre cette gagne et de penser que ton club qui est champion d'Europe peut faire le doublé, qui peut s'autoriser à le faire, c'est après, véritablement un problème. Et effectivement, ils se nourrissent de tout, quitte à le provoquer, comme tu l'as dit, quitte à mettre La Rochelle sur un piédestal, parce qu'ils ont véritablement mis La Rochelle sur un piédestal pendant toute la semaine. Encore une fois, Didier Lacroix, lors de du discours des présidents le midi de la finale, il a été élogieux à l'égard de ce qu'avait fait Vincent Merlingue et les Rochelais. Il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard. Il y a une part de sincérité, évidemment, mais il n'y a jamais rien qui est laissé au hasard.
Non, mais il y a un truc qu'on oublie. Enfin, tout le monde, il dit, on nous en veut, on dit qu'on n'est pas les chambres. Mais t'as vu l'équipe qu'ils ont ? J'ai dit une génération de joueurs exceptionnels. C'est
un
ça qu'on oublie.
Monstrueux, ouais.
Non, mais je veux dire, après, quand t'as dit ça, t'as tout dit. Je veux dire, excuse-moi, le meilleur demi-mêlée au monde.
Qui leur en
le meilleur Colby,
qui
le meilleur joueur au monde, il y a un an. Non, mais je veux dire, il y a Tino, il y a Tekori, il y a deux frères Arnold qui sont monstrueux.
Ça, ça compte pas dans la motivation. En fait, la motivation, c'est juste un mélange de schizophrénie et de paranoïa. C'est-à-dire qu'il y a un côté, c'est eux les meilleurs, c'est eux les meilleurs, et quand ils les battent, ah, oh, vous avez dit que c'était eux les meilleurs! Non, c'est vous qui l'avez dit durant une semaine. Et après, il y a le côté paranoïaque, on nous en veut, les arbitres nous en veulent. Enfin, ça, c'est pas nouveau, c'est juste que c'est dommage.
Il y avait l'histoire de Pierre, il y avait aussi l'histoire de la programmation aussi, de jouer le samedi, d'avoir un jour de moins en récupération, sans se servir.
Mais j'ai pas, c'est objectif.
Pierre, j'ai pas souvenir de faux pas de La Rochelle là-dessus.
Si, le bus.
Non, je parle dans la communication, dans la parole des entraîneurs et des joueurs, autrement.
Zéro.
Je m'en souviens, il y en a une dont on peut se rappeler, c'est finale de la Coupe d'Europe, c'est la déclaration de Geoffrey Doumerou après le match qui critique l'arbitre. Et c'est la seule fois où on a vu un joueur, en plus à titre individuel, à chaud, critiquer éventuellement le fait qu'ils n'ont pas été arbitrés exactement pareil que le Stade Toulousain. Mais sinon, globalement, depuis une semaine, c'est assez lisse. En plus, La Rochelle, c'est un club plutôt gentil, ils nourrissent pas forcément...
qui parle peu.
Voilà, c'est ça. Ils ne nourrissent pas forcément beaucoup les journalistes.
Pour arriver à cet effectif-là, il y a quand même un travail en amont.
Bien sûr. Ça, c'est une autre question, ça, Denis.
Une vraie intelligence.
Ça, on va en reparler.
Oui, mais regarde le trou d'air qu'il y a eu entre 2012 et 2019. Il y a eu un trou d'air, c'est parce que justement, la génération était moins bonne.
Juste, Denis, par rapport à tous les petits détails, tout, voilà. C'est une éducation. Toulouse a toujours voulu avoir un temps d'avance depuis des décennies.
C'est vrai, moi, j'ai connu ça quand je suis arrivé au Stade Toulousain. Alors, ça démarrait plus ou moins parce que Toulouse était pas construit sur le combat, il y avait devant c'était pas encore ça, et nous quand on est arrivé il y a eu cette nouvelle génération qui a amené le combat et la mêlée notamment, et souvent dans les finales on le voit, tu gagnes par la mêlée ou le combat.
Non, mais les détails dans la préparation aussi, Denis, je
mais
parle
la préparation,
tu l'avais déjà à ton époque.
Ah oui, totalement, mais complètement. Ouais.
Rien laissé au hasard, mais du petit détail, quoi.
Mais pas les détails d'aujourd'hui, évidemment, dans l'excès, on va dire, mais il y avait déjà beaucoup de détails dans la préparation, dans l'approche, dans tout. Oui, bien sûr,
vous nourrissiez déjà de choses, de petites choses comme ça.
Mais il le sait, Manu, nous à l'époque, quand Tarjani qui venait de l'athlétisme a apporté au club la musculation. Moi, je regardais ça, je disais, mais ils sont fous. C'était vraiment un truc qui
était complètement.
Oui, c'était totalement révolutionnaire. Mais on était précurseurs de ça. Donc, il y a eu des joueurs qui ont amené des choses novatrices. Mais il y avait ce souci du détail, tu as raison de le dire.
Allez, retour sur le match ou comment Toulouse a tissé sa toile.
L'action, il est. Jeu.
18 à 8, aucun essai, mais une telle maîtrise vendredi soir. Oubliez le stade toulousain aux essais à 1000 passes. Hein. L'équipe était en mission, Jeff, et les Toulousains ont montré comme tout au long de la saison, et presque comme un savoir-faire également, là aussi, qu'ils savaient s'adapter.
Oui, effectivement, ce qu'attendait un stade toulousain flamboyant, une farandole d'essais, comme par exemple pour la finale du championnat anglais, ont dû être un peu déçus, puisque les joueurs du Gomola ont surtout été cliniques, réalistes et ultra dominateurs en conquête. On pensait qu'ils allaient peut-être souffrir dans ce domaine face au Pack Rochelet, on vient d'en parler, et c'est tout le contraire qui s'est passé. Le plan des Toulousains a parfaitement fonctionné. Il faut dire qu'ils étaient vexés, ça c'est sûr, et s'en sont servis comme un levier de motivation. On rappelle aussi que c'est la deuxième meilleure attaque de la saison régulière pour ce stade toulousain, et cette fois ça s'est transformé en une véritable machine à concasser. Ils ont pris les Rochelais à leur propre jeu, et lors des 26 matchs de la saison régulière, ces Toulousains, ils avaient marqué 92 essais, sauf qu'en phase finale, ils savent que ça se passe pas de la même façon, et c'est pas une première pour le stade toulousain, puisqu'on rappelle que cet adversaire, ils savent s'adapter aux adversaires, et là, appuyer là où ça fait mal. On le rappelle notamment en Coupe d'Europe, en quart de finale contre Clermont à Marcel Michelin. Je ne sais pas si vous en rappelez, sous la pluie, ils avaient été brillants dans ce domaine. C'est la conquête qui nous fait gagner le match. C'est ce qu'avait dit Hugo Mola. Pareil contre l'UBB au terme d'un match très moyen, on va dire, en demi-finale de Champions Cup. Là aussi, ils avaient fait des ravages devant. Ou encore pour la victoire à La Rochelle il y a quelques semaines au top 14. Bref, on salue régulièrement le travail et le talent des lignes arrières. On vient d'en parler avec Denis. Sauf que devant, c'est du costaud, très costaud. C'est tout simplement une équipe complète.
Ouais, Denis, est-ce que ce genre de match. Est-ce que pour gagner ce genre de match, Toulouse s'est dit, le point fort de La Rochelle, c'est ça, en l'occurrence, la puissance des avants, on les prend là-dessus.
Mais bien sûr, mais en plus, ils avaient rien. Je crois que, sincèrement, ce qui a fait qu'ils ont gagné le titre, je pense que ça vient en amont, ça vient de la finale de la Champions Cup. Ils ont été concassés, humiliés par ces avants de La Rochelle, alors que évidemment ils sont costauds, mais il n'y a pas un monde entre les deux packs. Quand tu vois Julien Marchand, la première ligne, enfin je veux dire c'est costaud Toulouse. Mais nous on a eu l'illusion que les Toulousains étaient des enfants de cœur ce jour-là. Mais là, ils sont repris, ils ont construit, je pense, cette victoire à partir de là. Ils se sont dit, voilà, maintenant, on va les concasser, on va les prendre au ras et on va les renvoyer chez eux. Mais ils ont fait un match incroyable, incroyable de bravoure, de générosité, d'abnégation. Sincèrement, ils ont monté le curseur très, très haut.
Mais quand, Denis, tu en parlais du talent de Dupont et des autres, mais quand vous avez qu'un capitaine comme Julien Marchand et d'autres devant, c'est une équipe qui est parfaitement armée.
Énorme.
Mais ouais, c'est justement, énorme. Bien sûr. Manu, bien sûr. Si un pack était taillé pour défier les Rochers, celui de Toulouse.
Ouais, peut-être aussi celui du Racing dans d'autres temps. Et un pack au complet, je veux dire. Ce pack de Toulouse avec ces joueurs-là, avec Aldeguiri sur le banc, avec une très grosse première ligne, avec Tekori et les deux frères Arnold.
Oh, les franges Arnold, ouais.
Ouais, c'est parce que c'est pénible. C'est
Ils font Angéline, mais c'est les pires.
Ouais. Et donc, oui, ce pack-là, oui, bien sûr qu'il est taillé pour ça. Il n'y a pas de surprise, il y a zéro surprise sur ce qui s'est passé, si ce n'est que d'avoir vu les Toulousains monter à ce niveau d'intensité. Parce que pour le reste, il n'y a pas de surprise. Hein. Le jeu de Toulousain, en finale, ça disparaît. C'est un concept marketing que tu vas retrouver en septembre quand il faudra vendre des t-shirts. En finale, à Toulouse, tu oublies tout ça.
Ouais, c'est vrai.
Tu viens pour gagner. Et rappelez-vous, tout le monde.
Toutes les finales confondues, presque.
Exactement. 97 contre Bordeaux.
Tu refais l'histoire, tu regardes.
Mais bien sûr, il y en a plein. Dello, c'est
on les gagne souvent devant.
6
contre Toulon, je vous l'ai dit.
6 drops. Michalak,
les coups de pied de loin.
Ouais, exactement. Et une chose, juste un truc. En fin de saison, J24 ou J25, Urios fait une sortie contre son équipe. Cette équipe me casse les pieds, les couilles. Si on n'est pas capable de gagner les et si on n'est pas capable de mettre la tronche et d'accepter le combat, c'était après Castres, on ne sera jamais champion de France. Et bien il a tout dit. Pour être champion de France, il faut être capable de jouer peut-être parfois sale, dur et de s'engager fortement plus qu'on ne l'a jamais fait dans la saison.
Mais là où je suis te rejoint, c'est que je pensais pas réellement qu'il puisse avoir une telle intensité avec un jour de moins de récupération, avec une saison tellement harassante qui était tellement longue, mais au mental ils ont renversé les montagnes et c'est là où je suis admiratif, parce que sincèrement ce que fait Kroos en troisième ligne, Elstadt ou Tolofoa, enfin c'est voilà, il y a tout, on peut féliciter tout le monde.
Mais par d'habitude ça coache un peu plus tôt quand même. Hein.
Ouais. Pierre, qu'est-ce qui t'a marqué dans ce duel collectif devant?
Qu'ils ont été ultra servis par le scénario du match. C'est-à-dire que oui, Toulouse a fait un grand match. Oui, La Rochelle a fait un petit match, on y reviendra. Mais c'est surtout le fait que d'un coup, quand ils mènent 9-0 puis 12-3, ils ont finalement très peu de choses à faire. Ils défendent à 14 sur la ligne, ils gagnent les duels en gagnant le premier plaquage. Et on sait que La Rochelle, ils ont besoin de gagner ce premier duel pour mettre de la vitesse. Et comme ils ont été maladroits, comme ils ont été dominés sur le premier impact, finalement La Rochelle a couru presque tout le temps après son propre jeu. Et Toulouse n'a pas eu grand-chose à faire.
Et Toulouse, ils l'ont fait à merveille. Va pas le demi-heure de jeu. Troisième minute de jeu ou quatrième.
Oui, bien sûr.
Pénalité de Taribo et ça fait 3-0. Ça fait 3-3 et.
Oui, c'est plus le même match.
Le 3-3, c'est pas pareil, c'est passé à 6-0.
Et quand ils ont loupé, quand les Rochelais ont loupé, les Toulousains ont marqué.
Mais souvent, en prenant le scoring, ils ont réussi à mettre la main sur le match, mais pas forcément parce qu'ils ont fait des choses géniales. Et je trouve que. Voilà, La Rochelle a parfois gagné des duels, parfois perdu. C'est pas comme si Toulouse leur avait marché sur la gueule pendant 80 minutes. Il y a eu match, il y a eu duel. Mais dans les moments importants et tactiquement, Toulouse, ils ont ruiné La Rochelle.
C'est l'expérience.
Non, mais c'est là où l'expérience et l'intelligence rentrent en jeu. C'est-à-dire qu'ils se sont adaptés à la faiblesse de La Rochelle dans des moments faibles. Et inversement, s'il y avait eu temps fort, peut-être qu'ils auraient été forts aussi. Et tu vois, je veux dire, je pense que Toulouse était plus fort ce jour-là.
Et à partir de la 50e, ça y est, le match est terminé. Oui. D'un côté, il y a une équipe qui doit tout relancer, remonter les ballons sur 80 mètres. On a deux monstres qui sont Dupont et Ramos. Ils trouvent des touches vers la 70e.
C'est plié avant, c'est plié à la mi-temps. Ouais, le drop de Colby et puis la pluie qui apparaît.
Justement, messieurs, la stratégie était simple.
Il y a le premier temps fort Rochelet quand même qui était pas mal. Pardon, excuse-moi.
La stratégie était assez simple. Troisième ligne, François Cross. Précieux parmi les précieux, lui. On parle pas souvent de lui, François Cross. Mais alors c'est lui qui le dit. Écoutez, il résume absolument tout.
C'était de faire des choses simples et des choses qu'on maîtrisait. On va rien inventer sur une finale et il faut faire justement ce qu'on travaille depuis maintenant 13 mois et ce qui fonctionne. Pour gagner, il faut bien défendre. Et maintenant, quand on voit les défenses de chaque équipe, forcément le secteur défensif est un secteur clé, surtout contre une équipe comme La Rochelle qui dispose d'un pack surpuissant. Donc la défense, c'est toujours un secteur de jeu qui donne le ton d'un match. Notre charnière a fait un boulot exceptionnel sur la gestion. On a su construire notre match pas à pas en prenant les points quand ils se présentaient, sans laisser trop d'énergie pour justement à scorer. Et c'est vrai que quand vous arrivez à prendre le pas comme ça sur l'équipe adverse, ça nous donne un regain d'énergie et ça met un petit poids sur l'équipe adverse. Et je pense que c'est un des matchs les plus maîtrisés qu'on ait fait de la saison.
Un des matchs les plus maîtrisés, ouais. Quand on avance, c'est vrai que les deux charnières.
Là où j'étais déçu, c'est la stratégie mise en place par La Rochelle. Parce que si tu abordes une finale avec de l'expérience comme Toulouse la possède, tu vas chez l'adversaire pendant 10 minutes, un quart d'heure, tu prends pas de risque. Qu'est-ce qu'ils ont fait, La Rochelle? Ils ont voulu défier à nouveau. Ils se sont dit, on est revenu sur la finale de la Champions Cup. Mais c'est faux, c'est un autre match. Et ils ont insisté au ras, ils se sont fait culbuter. Ils ont commencé à douter. Et puis c'est parti en vrille parce que West loupe la première pénalité. Et tout s'enchaîne mal. Mais tout ça fait qu'au départ, ça part d'une mauvaise phrase, d'un très mauvais jeu au pied, d'une très mauvaise gestion, encore une fois.
Et tu le disais, Denis, aussi, de courir après le score dans une finale. Parce qu'à un moment, quand on regarde le tableau d'affichage, on se dit, est-ce qu'on se dit, justement, on peut la perdre cette finale?
Ah bah oui, non mais bien sûr, non mais c'est dramatique. La finale, toutes les finales, j'aimerais voir des stats, mais quand tu mets le score, c'est difficile après pour inverser la tendance. Et en plus contre les Toulousains qui en plus sont très pragmatiques, sont très cliniques, là tu prends des pètes au moral et puis tu te remets pas, quoi.
Ouais, terrible. Franchement, mais est-ce qu'on pouvait s'y attendre? Les Toulousains, messieurs, Manu, ont joué 8 matchs de phase finale cette saison. Entre la fin de la Coupe d'Europe de l'année dernière qui a été jouée à l'automne, celle de cette année, le top 14, c'est la force de l'habitude aussi.
Ouais, c'est la force de l'habitude, la force de l'expérience, la force d'une génération qui est exceptionnelle. Il y a pas de ce sont les grands joueurs qui font les grandes équipes. Et là aujourd'hui Toulouse est sacrément armée. On parle de Colby mais regardez rien que le 2 8 9 10 15 à Toulouse, ça pèse très très lourd.
Très lourd.
Et ça commence à avoir gagné des titres, ça commence à avoir une certaine expérience. Et dans ces moments-là, en plus Molas commence lui aussi à maîtriser sa partition. Dans ces moments-là, une équipe qui a beaucoup joué se retrouve sur les phases finales à chaque fois avec l'habitude, avec un atout supplémentaire. La Rochelle, c'était leur deuxième ou troisième match de phase finale. C'est trop trop court par rapport au palmarès et à l'expérience de Toulouse.
Est-ce qu'il faut apprendre faut payer pour apprendre.
Oui, mais ça, le problème, on le dit depuis deux trois ans. Oui, c'est paradoxal. Et puis, il va pas falloir se trouver. Mais puis, moi, je pense qu'aussi avec un ouvreur qui est trop faible dans la gestion de jeu, qui pèse pas assez sur le match, passe pas que sur celui-là.
Faut pas oublier qu'il y a quelques semaines, on disait que c'était un très bon ouvreur avec Carbarlo, que les deux étaient très complémentaires. Mais c'est vrai qu'au pied, West, Taribo l'a mis de Manu. Mais... c'est pas le plus précis. C'est pas lui qui vous met en confiance. Et c'est vrai qu'il faut rappeler aussi qu'il a été prolongé pour une saison à La Rochelle. Qui ça va être un gros chantier la saison prochaine de trouver un ouvreur qui peut faire la différence dans cette équipe.
Bon, non, mais le plus dur, pardon, Wilfried, c'est juste que face au poteau, tout ce qu'il fait dans la saison sans pression, c'est très bien. Ouais. Mais là, face au poteau sur les matchs en jeu, voilà, c'est deux titres.
Arrêtez de l'appeler Taribo, je vous mets un carton rouge autrement. Mais il fallait un bras armé de l'autre côté au PAC à cette équipe du Stade Toulousain pour convertir la domination. Et ce bras armé, c'est notre frelon du week-end.
RMC, entre les poteaux, lancé comme un frelon.
Je ne sais pas s'il lui reste des neurones en pleine fête du titre ou une certaine qualité de diction. Va vérifier. Bonjour Thomas Ramos.
Bonjour.
Salut Thomas.
Tu as la diction, Thomas, c'est bon ?
Pardon ?
Tu as la diction ? C'est bon, les neurones qui te permettent de bien parler après deux jours de fête ?
Ça va, merci.
Avant de revenir sur ce match, justement, Thomas, on voulait que tu nous racontes depuis vendredi soir les émotions, quoi, les émotions de la nuit, du retour à Toulouse, la rencontre avec votre public. Est-ce que tu peux nous parler de ça?
Ouais, forcément, déjà, de pouvoir partager avec nos amis et nos familles de suite après le match, c'était agréable. Et de rentrer à Toulouse avec les supporters qui nous attendaient. C'est vrai que c'était un peu particulier parce qu'on pouvait pas aller au Capitole, mais on a fait une célébration un peu différente avec les remplaçants à Jean Jaurès, et au final c'était quand même assez bien parce qu'il y avait beaucoup de monde, et franchement, c'était très très agréable. Donc, voilà, on n'a pas eu de supporters de toute la saison et on a essayé d'en profiter un maximum durant très peu de temps.
Alors, il n'est pas en train de parler comme ça parce que ses coéquipiers qui font la sieste à côté, on va tout vous dire. Il est en train de faire une petite partie de golf. Il prend du plaisir, Thomas, donc c'est pour ça peut-être que tu es assez discret.
Comment tu joues, Thomas?
C'est Denis Charvet.
Catastrophique. Comme moi, quoi.
T'es meilleur face au perche, Thomas.
Tu sais ce qu'il me dit, Hugo Bonneval, le frère d'Arthur Bonneval?
Non.
Il me dit d'engager avec le pied, ça frappe mieux qu'avec qu'avec le drive.
Bon, Thomas, on essayait de décortiquer la finale dans notre podcast entre les poteaux et ce fait de prendre les Rochelais sur leurs points forts. Est-ce que c'était la mission, notamment sur leur puissance devant, de les prendre là-dessus? C'est plus facile si on y arrive après.
Ouais, après, c'est sûr qu'on s'attendait à un gros match face à eux. Voilà, je pense qu'ils avaient marqué un gros coup sur la demi-finale face au Racing. Tout le monde parlait de leur pack. C'est vrai qu'ils avaient fait un gros match. Mais je pense que sur la saison aussi, on a su rivaliser à chaque fois qu'on a joué contre devant. Et voilà, nos avances avaient le défi qui les attendait. Et ils ont répondu présent. Et aujourd'hui, la victoire est en partie grâce à eux et grâce à notre défense.
Juste, on en parlait, juste avant que Denis te pose éventuellement une question. Vous êtes cherché un peu des ennemis, pas invisibles, mais Hugo nous a dit après le match, on nous voyait comme ci, comme ça, parce que nous, on n'a pas eu la sensation non plus qu'on avait manqué, enfin, des observateurs ou des consultants avaient manqué de respect au Stade Toulousain, mais vous allez vous chercher ça un peu aussi, non?
Ouais, ben forcément, ça fait partie du truc de se motiver par des petits articles qui passent par-ci ou par-là, mais. Au-delà de ça, je pense que ce qui nous a motivé le plus, c'est l'envie de gagner de ce groupe, de cette génération, de tous les mecs qui font partie de notre équipe, pour plein de raisons, pour déjà les mecs qui arrêtent, quand tu vois les mecs qui arrêtent et qui vont plus jouer avec nous à la fin de la saison, c'est quand même des gros noms du rugby.
Kaino UG.
Pour les mecs, Kaino UG, on le cite pas aussi souvent, mais Louis-Benoît Madol qui est en termes d'état d'esprit. C'est un mec, c'est exceptionnel ce qu'il fait pour le groupe. Donc, les blessés, parce qu'on a eu une saison assez compliquée avec, comme beaucoup de clubs, mais avec beaucoup de blessures. Et voilà, c'est une bande de copains qui jouent les uns pour les autres. Et souvent, on pense qu'on dit ça pour faire le genre, mais bon, pour pas faire. Comme si tout se passait toujours bien, mais en tout cas, c'est quand on dit que c'est vraiment une bande de copains qui jouent les uns pour les autres, c'est la vérité. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre sport, c'est ce qui fait encore qu'on arrive à performer comme on le fait.
Denis.
Non, moi je vais pas parler du match, on l'a tous vu. J'aurais parlé de toi, Thomas, de ton avenir, parce que tu m'as vraiment bluffé. Tu as une marge de progression à ce poste d'ouvreur. Je sais que tu as joué souvent jeune, mais ouais. comment tu te positionnes aujourd'hui dans ta tête? Parce que là encore, tu es élu homme du match, en demi-finale. En 2019, tu es à l'ouverture aussi, vous êtes champion de France. Il n'y a pas de hasard, quoi. Je veux dire, tu es un élément clé. Parce qu'à un moment donné, à force imposée, c'est ce que j'ai envie
de dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, tu vois, c'est compliqué, tu sais, c'est compliqué de dire.
Non, mais je sais que c'est compliqué pour toi.
Après,
c'est
honnêtement, pour ça que je te pose la question. Mais... moi, je prends énormément de plaisir à jouer, que ce soit à l'ouverture ou à l'arrière. Mais forcément, que ce poste de 10, je le connais très très bien. Moins c'est au niveau que l'arrière, parce que mais tous les gros gros matchs, je les joue le plus souvent à l'arrière. Mais forcément que c'est un rôle que j'aime bien, être le meneur de l'équipe. Ce qui fait aussi un peu notre force à Toulouse, c'est qu'on peut être meneur tout en jouant à l'arrière aussi, ou en jouant au centre. Mais voilà, c'est sûr qu'avoir le numéro 10 dans le dos, c'est toujours un plaisir de le porter.
Mais ça se voit dans l'allure d'ailleurs. T'as une position de leader dans cette équipe. C'est ça qui est marquant pour moi.
Ouais. Après, c'est sûr que offensivement, en tout cas, j'essaye de bien mener l'équipe, garder la stratégie qu'on nous demande. Et voilà, je sais qu'aussi les mecs autour de moi ont confiance en moi quand je joue 10 ou arrière. Mais quand je passe des consignes, en tout cas, je sais qu'ils ont confiance en moi. Donc ça, déjà, ça met
confiance.
Voilà, ça donne confiance en soi. Donc voilà, après te dire de quoi il fait mon avenir, à quel poste, je sais pas. En tout cas, j'espère que ce sera au poste à Toulouse. Et voilà, peu importe. Après, j'ai envie de te dire, peu importe le poste, du moment où on continue à avoir les résultats qu'on a actuellement, vraiment, ça reste pour moi anecdotique.
C'est incroyable. Pierre, une question tactique peut-être à Thomas.
Oui, bonjour Thomas. J'ai le sentiment que vous avez complètement changé avec le Stade Toulousain votre manière de procéder en cours de match. Une fois que vous aviez pris le scoring à 9-0, vous avez occupé en alternant avec Antoine. Comment vous vous organisez à ce moment-là? Qui décide de quoi? Est-ce que c'est Antoine et toi qui avez pris la décision? Est-ce que c'est Hugo qui passe des consignes sur le bord du terrain? Ou est-ce que c'est la logique du match?
Avant le match.
Vous le saviez déjà?
Ouais, pour nous, c'était une stratégie avant le match qu'on allait adopter de toute façon. On savait que La Rochelle, c'était l'une des équipes qui tapait le plus et qui occupait le plus le camp de l'adversaire durant toute la saison. Voilà, donc nous, de toute façon, sur les matchs de phase finale qu'on a joué cette année, on a gagné beaucoup, beaucoup de matchs en étant efficace sur le jeu de l'occupation, à jouer dans le camp de l'adversaire. Et voilà, c'était peut-être pas les plus beaux matchs de rugby qu'on a pu voir sur le match de phase finale, mais en tout cas c'était peut-être les plus efficaces, et c'est ce qu'ils font gagner aujourd'hui en phase finale. Donc j'ai envie de te dire, on se régale à jouer un très très beau rugby, je pense, tout au long de la saison, et on arrive aussi à être tueur durant les matchs de phase finale, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force.
Thomas, pour finir, il y a un autre objectif certainement que tu as dans ta tête, c'est la Coupe du Monde en 2023, même si là, en jouant au golf après deux soirées de fête avec le titre, c'est peut-être un peu loin, mais c'est pas de faire injure que de te dire que tu n'es pas installé en bleu comme tu l'es à Toulouse. Qu'est-ce qui te reste à faire selon toi? Comment tu analyses ça? Améliorer
Ouais, après aussi, il y a de la concurrence en équipe de France, donc forcément que... j'essaie déjà d'être titulaire dans mon club parce qu'il y a des gros 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 joueurs aussi à mon poste, donc voilà. Et puis après on verra dans les semaines.
Il est en train de jouer.
Non, je joue. Quelle place non, c'est Arthur qui joue à ma place, ça va.
Attention au vent.
Quelle place on peut me donner en équipe de France? En tout cas, moi je ferai tout pour aller chercher forcément une place de titulaire, parce que quand t'es un compétiteur, t'as envie de jouer pour ton club, pour ton pays. Donc voilà, c'est sûr que des prestations qui donnent confiance, comme j'ai pu faire le week-end dernier, ben j'espère que ça puisse me donner encore plus confiance pour le très 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 haut niveau.
Manu, une dernière question rapidement avant de laisser Tiger Woods s'exprimer sur les sur les greens.
Non, d'abord Denis a dit l'essentiel et Thomas vient de revenir dessus. L'avenir demain, ces titres ils sont magnifiques, et il faut voir où Thomas peut se positionner, où est-ce qu'il aura le plus de de débouchés et d'avenir.
Mais foutez-lui la pelle, laissez-le kiffer voilà, encore
exactement.
Quelques heures.
juste une question, Thomas, comment tu fais pour arriver en finale à une telle décontraction face au poteau
et c'est le
golf. Est-ce que ça vient du golf, évidemment, ou tu tapes avec les pieds?
Non, c'est vrai qu'après, j'ai beaucoup travaillé sur ma préparation mentale aussi. On n'en parle pas assez, je pense, dans le rugby, mais en tout cas pour des buteurs ou je sais pas, peut-être pour des lanceurs, ça peut être assez bénéfique. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Pendant 2 ans, j'ai travaillé avec quelqu'un qui je vais citer Olivier Leprêtre, il sera content, qui m'a bien aidé à me concentrer, à faire un peu abstraction de toute pression. Et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que quand je bute un match, pour moi, j'ai l'impression de buter comme un peu à l'entraînement ou comme un peu mis en place. C'est pour moi buter, c'est
la routine.
Plaisir, donc ouais, je suis pas le genre de joueur qui prend 10 ballons et qui va buter tous les jours 50 coups de pied. Mais par contre, voilà, quand je vais m'entraîner une ou deux fois par semaine, ben je le fais sérieusement. Je me mets dans ma bulle comme si j'étais à un match. Et puis voilà, il faut.
Tu as tapé combien de drops dans la semaine avant la finale?
ça fait 6 semaines qu'on en tape. On en tape à peu près, j'ai envie de dire, depuis 6 semaines. Ça, depuis la semaine de la finale de la Coupe d'Europe, on en tape.
Très bonne info.
Allez, une petite dizaine après. Une petite dizaine par semaine.
Thomas, par contre, pour le golf, je te connais un préparateur mental.
Ah bon?
Pour le golf.
Vincent Moscato.
Non, très bon. Non, sérieux. Non,
mais
je suis sérieux.
C'est sérieux, d'accord. Bah, tu lui transmettras.
Je
fais son numéro, tu lui transmettras. D'accord. Non, bon.
Parce qu'avec Denis, on peut toujours penser qu'il déconne. Donc.
oui. Non, ça n'arrive jamais, ça.
À moitié.
Jamais.
Thomas, merci d'être venu avec toi pour avoir quelques instants dans ton golf. D'être venu. Tu vas couper un moment. Est-ce que tu vas rester quelques jours sans faire de sport carrément?
Ouais, 3 semaines, je pense.
3 semaines même? Ouais.
J'ai lu que tu voulais être sur une transat, tu vois.
Non, mais ça veut dire 3 semaines sans faire de sport, carrément?
Ouais, je pense vraiment. Après, forcément, honnêtement, je pense qu'il nous a donné 6 semaines. On a la chance, c'est la première fois qu'on a autant de temps. Donc, je pense que pendant 3 semaines, je vais vraiment couper. Peut-être un petit paddle et un petit golf de temps en temps, mais bon, rien de plus, quoi.
Comme bon. Denis Charvet.
Ouais, merci d'être venu dans le podcast. J'imagine que tu l'écoutes toute l'année, t'en rates pas, hein. C'est ça, hein. Tu télécharges entre les poteaux, bien sûr, Thomas Ramos.
Bien sûr. Et quand je loupe le Moscato Show, pareil.
Bon, bonnes vacances, Thomas. Merci d'avoir pris quelques instants.
Bravo pour Thomas.
Salut, bravo.
Pour ta carrière et tout, et continue.
À bientôt. Ah, c'était sympa d'avoir ce Thomas Ramos là, dans ce moment avec nous.
Il
est plutôt tranquille, ouais. Bon.
Quel joueur, hein, ça.
Qui a progressé énormément, qui, souvenez-vous, avant le titre de 2019, était prêté à Colomiers l'année d'avant, hein, oui. Qui est revenu de Colomiers et qui a enchaîné avec le titre 2019, Coupe d'Europe.
La Coupe du Monde.
Coupe du Monde aussi, ouais.
Et on a oublié
c'était pas un sourire, mais bon, la prochaine, il y sera certainement.
On a oublié de préciser quand même qu'il a été blessé pendant la saison, qu'il est revenu.
C'est vrai,
il s'est imposé au dernier moment, quand même.
La Coupe d'Europe, c'est vrai. Le sourire de Thomas Ramos d'un côté, mais l'autre côté, allez, on va passer l'autre côté. Ça a été très dur pour les Rochelais. C'est le moment d'ouvrir la boîte à gifles. Deuxième finale perdue en un mois. Et surtout, un groupe méconnaissable. Que s'est-il passé, Pierre, vendredi soir, pour le Stade Rochelais?
Eh ben, c'est l'éternelle question du verre à moitié vide ou à moitié plein. Est-ce que c'est Toulouse qui a fait un grand match ou La Rochelle qui en a fait un tout petit? Et à chaud, en sortant du terrain, Romain Sazi a un début de réponse et surtout une bonne question.
C'est clair, on est passé à côté tout simplement. Quoi. Après, on reverra le pourquoi, on en tirera des conclusions aussi. Il n'y a pas eu trop de matchs ce soir.
Et oui, pourquoi La Rochelle est passée à côté? Difficile de répondre sans revoir en intégralité le match. Mais les chiffres donnent une première piste. 20 ballons perdus, 8 en avant, 8 points laissés en route. Impossible de gagner un match de haut niveau comme ça. Quand on ajoute à cela le fait que les erreurs ont presque été systématiquement commises dans les zones de marque pour La Rochelle, et bien fatalement, et bien c'est la machine toulousaine qui s'est installée dans la rencontre. La déception est d'autant plus grande que le match face au Racing avait été maîtrisé de bout en bout. Romain Sazi, toujours, tente d'expliquer le non-match des siens.
On n'est jamais trop rentré dans le match. Début deuxième mi-temps, quand tu remarques, tu te dis, ça y est, c'est fait, on va enfin commencer le match et rentrer dans le match. Et après, tu retombes dans les travers et tu refais encore des fautes de main. C'était un match hyper haché, pas de rythme, c'était délicat.
Vu des tribunes, cette fois, Toulouse n'a jamais tremblé. Match parfait de sa charnière, conquête impeccable. Quand La Rochelle laisse échapper 4 touches et une mêlée, les champions de France imposent leur puissance au sol. C'est le constat que fait notamment Ronan O'Gara, l'entraîneur maritime.
On a commencé lente et imprécis et trop de fautes. Aussi, je pense, le game management de Toulouse était très bien, ramassant 10, c'était parfait avec 2 points. Par contre, on peut jamais rivaliser leur puissance. Je trouve que leur plaquage quality était très bien. C'est bien sûr une énorme déception pour moi et pour l'équipe.
Si la finale de la Coupe d'Europe avait laissé entrevoir des solutions et un espoir aux jaunes et noirs, force est de constater que faire un grand match à 14 ou un tout petit à 15 produit les mêmes effets, une défaite. Et si le revers européen a laissé des remords, cette finale de top 14 va, elle, laisser beaucoup de regrets.
Denis, c'est mythique une finale comme ça et ça te fait perdre tes moyens? Enfin, il y a l'adversaire en face, on l'a vu.
Je pense qu'il y a eu un peu de crispation au niveau de l'approche mentale de cette finale, mais ça explique pas tout. Je pense que les Rochelais, surtout les joueurs, ne pensaient pas que les Toulousains leur imposeraient une telle intensité. Et la clé du match, c'est la défense, quoi qu'on en pense. Donc tu peux faire des fautes, tu peux avoir du déchet, mais il faut comprendre pourquoi tu l'as. Et je crois que la cause, elle est réellement toulousaine. Voilà, ils leur ont imposé un schéma de jeu qui les a perturbés. Ils n'ont pas pu. Alors après, la pluie s'est mêlée, le temps n'était pas idéal pour eux. Mais bon, ouais. Voilà. Donc je pense qu'il n'y a pas. Sur le match, sincèrement, ils sont passés à côté parce qu'ils ne s'attendaient pas à une telle opposition.
Puis la faillite vient des leaders quand même, hein, Manu. Antonio, Skelton, Aldrit, West, Dulin qui se
blessent.
Parce
qu'ils ont été pris à la gorge. Simplement.
Ouais, fatigué aussi sans doute. Hein. Un jour de plus, on voit que Aldrit souffre. Il souffre.
Méconnaissable.
Plus que, ouais, bien sûr. On ne l'a jamais vu souffrir comme ça depuis 1 ou 2 ans. C'était peut-être le match de trop pour les Rochelais. Oui, le contexte était pesant pour eux. Pour avoir vu et discuté avec Vincent Merlingue le midi et juste avant la finale, on sentait chez lui une tension qu'il n'avait pas habituellement, parce que oui, il faut apprendre, oui, il faut payer pour apprendre, payer pour savoir, mais Merlin et les Rochelais savaient aussi que les occasions de venir en finale étaient rares et qu'il ne fallait pas les rater. Ils avaient déjà raté la finale de la Coupe d'Europe, et à l'inverse de ce qu'on pensait, sans doute que le poids sur cette finale de championnat de France a été beaucoup plus lourd pour les Rochelais que pour les Toulousains.
Ils avaient perdu la finale de Challenge européen il n'y a pas si longtemps aussi.
Ouais. Hein. Après, c'est Manu, c'est l'expérience, tout simplement aussi.
Ce qui est un peu embêtant, ouais. Jeff, c'est qu'ils auront les mêmes buteurs l'an prochain.
Oui, et effectivement, ce sera toujours, il y a toujours West et Plisson.
Bah oui, mais peut-être que l'année prochaine, Plisson jouera plus que West.
Sauf que West a joué tous les gros matchs importants, si je dis pas de bêtises, depuis quelques semaines pour être associé à Carvalho.
Ouais, mais ça, c'est le choix de Gibbs. Et
oui.
Et Gibbs n'est plus là l'année prochaine. Ouais. Voilà.
Bon, est-ce que Poplin, Poplin, le jeune Poplin qui arrive de Vannes, a les épaules pour prendre le lead comme ça à l'ouverture
sur le but, oui.
On va vite le voir.
Sur le but, oui.
Malheureusement, je pense pas pour lui parce qu'on a l'exemple de Maxime Lafache qui était passé dans les mêmes conditions, à savoir un joueur de Pro D2 brillant qui vient en top 14. Il s'était cassé les dents au niveau dessus. Je ne souhaite absolument pas à Pierre Poplin, qui connaît aussi le club de La Rochelle. Ça pourrait être différent. Mais aujourd'hui, la pression, elle doit d'abord être accepté, digéré par les leaders que sont West ou Plisson, avant d'espérer un miracle en prenant Pierre Poplin, qui est un excellent joueur de Pro D2, qui a fait beaucoup de bien dans son club, mais qui va déjà devoir découvrir le top 14 avant de devenir un de ses patrons. Et ce qui m'a frappé sur le match, c'est que le jeu au pied d'occupation et de pression était raté pour La Rochelle. L'absence de Dulin a fait beaucoup de mal, ouais. Tout comme celle de Botia. Et je suis pas du tout d'accord avec Manu, ils ont pas raté leur finale de Coupe d'Europe, ils l'ont perdu.
J'ai pas dit là, ça.
Si, t'as dit,
ils ont perdu. Ils ont raté une occasion d'être champion.
Ok, d'accord. Voilà.
Parce que ils ont fait une très très belle finale de Coupe d'Europe.
Ils ont perdu un match en finale de Coupe d'Europe. Mais ils ont raté un match en finale de Coupe d'Europe.
Après, déformer les propos, monsieur Arif.
Je t'invite à réécouter le podcast.
La saison n'est pas à jeter de La Rochelle. Attention, parce qu'il y a deux défaites en finale. Mais elle est incroyable, leur saison, non? On est d'accord quand même.
Deuxième de la saison régulière.
Non, mais en plus, chapeau et puis que de regrets pour cette finale de Champions Cup. Autant sur la finale du championnat, il n'y a pas de regrets, mais là. Si Botia fait pas ce geste complètement stupide, ils doivent gagner.
Puis le bilan, c'est que t'es la deuxième meilleure équipe de France et d'Europe. C'est quand même pas ridicule quand on voit d'où ils viennent. Oui. Et surtout, tu le fais derrière une équipe qui est immense, le Stade Toulousain.
Et l'année prochaine.
Après, la grande question que tu poses, est-ce qu'ils ont appris pour
ils vont progresser?
L'année prochaine, tu auras Clermont. L'année prochaine, tu auras Bordeaux. L'année prochaine, tu auras le Racing, le Stade Français.
Oui, comme chaque année.
Ce que disait Merlin, non, mais c'est la concurrence. Ce que disait Merlin et Lacroix avant le match, c'est que la concurrence est de plus en plus forte et eux le ressentent à tous les niveaux. Et donc, une chance, il faut la saisir.
On finit, messieurs, en refermant le rideau sur cette saison avec les bons et les mauvais points.
RMC entre les poteaux,
la boîte à gifles.
On n'aura pas le temps de faire la page sur les bleus parce qu'on est beaucoup trop bavard, surtout vous. Une boîte à gifles, peut-être aussi une boîte à câlins, si vous voulez. Les poteaux ont aimé, les poteaux ont détesté. Vous pouvez vous en faire, en studio des câlins. En bilan, c'est incroyable, incroyable comme saison 2020-21 avec le Covid, tout ça. On vous écoute, Denis. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux mettre en avant que t'as aimé ou que t'as pas aimé
Ça peut être toi, Denis. Ça peut être toi, Denis.
T'as aimé toi, Denis. Oui. Tu t'es trouvé excellent.
Je trouvais que c'est une belle saison. Je trouvais que le top 14 était au niveau. Je retiens un match parmi d'autres parce que il m'a marqué plus que les autres. C'est Biarritz-Bayonne. Voilà.
J'ai eu attention autour de ce match.
Ouais, attention, parce que ça reste du rugby et même si c'était pas le plus beau match de rugby que
devant
j'ai vu.
Devant 5000 spectateurs.
Non, mais la dramaturgie, on aime le sport à cause de ça, enfin, grâce à cette dramaturgie-là. Et là, il y avait tout ce jour-là. Et je suis resté scotché devant la télé, comme beaucoup de gens qui n'aimaient pas forcément le rugby, qui ont regardé ce match jusqu'à la fin.
C'était pas un beau match. Hein.
Manu.
Le flop, c'est Agen, évidemment.
Terrible.
Parce que ce que renvoie cette équipe, ce club. C'est terrible pour le rugby d'élite. Zéro victoire en top 14, ça n'était jamais arrivé. Et croisons les doigts pour que ça n'arrive jamais parce que c'est une sacrée contre-publicité pour notre sport. Le top, ça peut être Bordeaux, ça peut être Biarritz-Bayonne comme Denis vient d'en parler. Ça peut être l'avènement de cette génération, Aldrit, Dupont, Tamac, Marchand. Il nous manque un seul joueur pour faire une épine dorsale, une colonne vertébrale à notre 15 de France. Et à 2 ans de la Coupe du Monde, c'est quand même une sacrée nouvelle, même si les Bleus n'arrive toujours pas à gagner de titre.
Pierre.
Moi, le coup de griffe, ce sera évidemment contre les mutations en cours de saison.
Oui.
Que ce soit Gaël, Ficou, les autres, je trouve ça ridicule. Changer les effectifs en cours de saison, c'est assez pathétique. Et voilà, ça m'a vraiment déplu. Et au niveau du contenu du championnat, je suis assez content de voir qu'il y a pas mal d'équipes qui ont proposé du jeu. Je pense à Brive, qui, malgré son image d'équipe casse-pied, ils ont produit des choses. Je pense au Racing, qui a fait des très bons matchs. Enfin voilà, je me suis régalé toute la saison. Et j'ai aimé l'aventure Castres. Non, l'aventure Castres.
À la remontée Castres.
Vraiment la fin de ce championnat au couteau, où ils ont rien lâché et tout. Je me dis que c'est grâce à ce genre d'équipe qu'on peut aimer la formule des phases finales de la dernière journée, le multiplex, etc. C'est pour ce genre d'équipe.
Jeff.
Moi, j'ai bien aimé aussi, pour rebondir sur ce que dit Pierre sur le multiplex, la fin du championnat, le scénario, c'était un truc de dingue. La dernière journée, qu'on voit, on ne sait pas qui se qualifie. C'est vraiment l'indécision du top 14 avec plein d'équipes qui sont pas loin les unes des autres. En fait, ce que j'ai pas aimé, c'est les tensions, les polémiques, les querelles entre présidents,
l'élection
à la Ligue, l'épisode Covid, la bulle percée. Ça a été une année très compliquée en raison du contexte. Et c'était une année, il n'y a pas eu une semaine tranquille dans le rugby français. On parle souvent du foot. Le rugby français a encore beaucoup de choses à apprendre.
Hein. Ça, tu veux ruiner le middle,
on était très contents de se faire un resto de Jeff en terrasse la semaine dernière parce qu'on a toute l'année, chambre d'hôtel et compagnie. On était très heureux. Juste pour finir, moi, j'ai trouvé l'émotion, la belle, l'émotion de Vincent Merlingue. Elle était belle en demi-finale. Elle était complètement sincère.
Un grand président.
Il aurait préféré pleurer en finale, certainement de joie. Et un mot, on n'a pas pu en parler, on leur avait promis aux supporters de l'USAP, un mot sur l'USAP aussi. On est content, on n'est pas content de la descente d'un club ou d'un autre, mais on est très content du retour de l'USAP en top 14 et de leur ferveur. Et on leur promet que, parce qu'on voulait, on pensait inviter Melvin Jaminet, il a préféré partir en Australie que pas participer entre les poteaux.
Ouais, tant pis pour lui.
N'importe quoi.
Pourquoi
donc on essaiera de l'inviter en début d'année.
Il n'aurait pas dû prendre son passeport. C'est
d'accord.
Tout.
Et on n'a même pas le temps de finir sur les bleus parce qu'on a explosé tous les compteurs. Messieurs, on a 2 ans de la Coupe du Monde en France. On est déjà à mi-parcours, vous imaginez, entre le Japon et la prochaine chez nous. On va compter les dodos, tout comme vous allez aussi compter les dodos, j'imagine, jusqu'au retour d'entre les poteaux. C'était la dernière de la saison. Vous allez faire quoi? On sait plus du coup.
On va se reposer. On va revenir avec plein d'énergie, mais là, il faut se reposer.
Ouais. On vous remercie d'être fidèle à ce podcast, à vous, les auditeurs. Merci à Christophe Cessieux qui est sur les roues du Tour de France aussi, qui fait normalement le maître de cérémonie, mais il n'y en a plus pour très longtemps, je pense. Merci à Pierre Amiche pour la préparation de tous ces rendez-vous.
T'es au courant aussi.
Merci à la régie et la technique, à Daniel, à Julie, à Marie qui sont tour à tour aux manettes. Merci à vous les poteaux, merci Denis cette saison. Merci Manu, il est déjà parti
merci,
Denis, c'est ça?
Il va jouer à la pétanque là.
Merci Jeff, merci Pierre. Merci. Vous rechargez les accus, bel été, on repart pour un tour en septembre. On vous embrasse tous, allez, ciao.
Salut les amis. Ciao.